Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit aujourd'hui Françoise Ekouyé, députée nationale et porte-parole du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, membre du Front commun pour le Congo, FCC. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Honorable Françoise Ekouyé, bonjour, comment vous allez?
Bonjour Alain Hiron, bonjour aux auditeurs de la Radio Capi. Je vais assez bien, je suis un tout petit peu grippé, mais ne vous en faites pas, les auditeurs ne seront pas déçus.
Vous le savez, la délégation du Conseil de sécurité effectue sa 14e visite de travail en RDC. Lors de ce séjour qui se clôture le dimanche 7 octobre, cette délégation devra rencontrer des autorités congolaises, des acteurs politiques, tant de la majorité que ceux de l'opposition, la société civile et le leadership de la MONUSCO. Pour vous, que faut-il attendre d'une pareille visite?
Je crois que c'est une visite de routine. Mais aussi une visite qui arrive pour se faire une idée de l'évolution du processus électoral à presque 80 jours du jour du scrutin, mais aussi évaluer le travail de la MONUSCO, parce que la partie congolaise a demandé que la MONUSCO commence à se préparer pour plier bagages. Et donc je crois que ce sont ces deux préoccupations qui amènent les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à venir nous rendre visite dans notre pays où nous les accueillons toujours de manière bienveillante.
Il ne s'agit pas d'ingérence cette fois-ci?
Non, je ne crois pas que ce soit une question d'ingérence. Les membres du Conseil de sécurité, parce que la RDC étant un membre des Nations Unies, sont toujours les bienvenus à RDC.
En marge de cette visite du Conseil, de la délégation du Conseil de sécurité, il y a l'ONG britannique Amnesty International qui a publié un communiqué dans lequel elle estime que cette visite devrait être une occasion d'ouvrir l'espace civique en RDC, et aussi elle réclame la levée des mesures d'interdiction des manifestations publiques et la mise en œuvre effective des mesures de décrispation prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je ne sais pas s'il y a un pays où les droits civiques, la liberté de manifester sont plus appliqués en Afrique centrale que la RDC. Vous vous souvenez que le week-end dernier, il y a eu une grande manifestation de l'opposition qui s'est tenue dans les calmes. Personne n'a empêché qui que ce soit d'y participer. La police a été respectueuse de la population. Il n'y a eu aucun cas signalé de comportement anormal. Donc pour nous, nous considérons que la RDC est un pays de grande liberté. Quant à ce qui concerne les mesures de décrispation auxquelles cette ONG fait allusion, il faudrait qu'elle soit précise, parce que pour nous, les mesures de décrispation ont été faites, mais je crois que à l'extérieur, des pays souvent de droit ont l'impression qu'à RDC, nous sommes un pays bananier où on doit privilégier des considérations politiciennes aux considérations juridiques et légales. Nous savons que des personnes qui sont en prison aujourd'hui considérées comme politiciens le sont pour des faits de droit commun. Et donc, on ne peut pas, parce qu'on est politicien, avoir des privilèges quand on a commis des actes infractionnels qui ont causé préjudice aux tiers. Et donc, je crois que c'est un faux débat celui-là. Aujourd'hui, la RDC est un pays qui respecte la liberté d'expression. Il faut voir le nombre de chaînes de télévision, les journaux, les articles en ligne, et sur un ton parfois qui frise l'injure, mais qui n'est pas réprimé. Et donc, ce qu'on devrait plutôt craindre, c'est que la RDC devienne un pays de libertinage d'opinion plutôt qu'un pays respectant la liberté d'opinion.
Mais qu'est-ce que vous dites des manifestations, par exemple, pacifiques organisées par la Lucha qui sont réprimées souvent?
Mais je crois que manifestations publiques doivent être précédées par une lettre d'information à l'autorité. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et occuper la place publique en gênant les autres usagers. L'espace public appartient à tout le monde, ceux qui veulent manifester et ceux qui veulent travailler. Et c'est pour cela que la loi encadre les manifestations publiques. Et donc, si par moment la police intervient, c'est parce que la plupart des cas, les gens se réveillent sans informer l'autorité et veulent occuper l'espace public sans prévenir l'autorité.
Pour revenir à l'accord de la Saint-Sylvestre, honorable François Zécouillet, pour vous aujourd'hui, que devient cet accord ?
Mais pour moi, l'accord est appliqué parce que toutes les dispositions de l'accord ont été appliquées. De manière essentielle, il a fallu qu'on ait un gouvernement intégrant la partie qui n'avait pas participé au dialogue de la CELOIA, ce qui est le cas. Il fallait qu'on organise le CENSA. Il existe.
Et sans fondement juridique, ce CENSA. Il n'y a pas de loi.
Les dispositions de l'accord ont toujours dit que la CENSA peut fonctionner avant que la loi ne vienne. Et donc, ce n'est pas contraire à l'accord.
Ça n'a même pas été inscrit à l'ordre du jour de cette session.
Je ne sais pas pour quelle raison, mais que cela soit inscrit ou pas, ça n'empêche pas au CENSA de fonctionner parce que l'accord a prévu qu'il puisse fonctionner avant ou même sans qu'une loi spécifique ne l'organise.
En parlant des mesures de décrispation, honorable Nzekouyer, il y a certains opposants qui parlent de ces médias qui sont encore fermés et qui peinent à rouvrir.
Il faut que les patrons de ces médias disent la vérité à l'opinion. Pourquoi ces médias ne sont pas encore ouverts? Est-ce qu'il est normal que des médias privés, commerciaux, puissent fonctionner sans payer les droits et taxes à l'État? Quand l'État applique des mesures restrictives aux récalcitrants de l'application de la loi, doit-on parler encore de décrispation politique? Non. Vérifiez, vous êtes journaliste, enquêtez, demandez à l'autorité de régulation, allez dans ces médias-là, demandez-les pourquoi ces médias sont fermés. On vous dira, s'ils sont honnêtes, que c'est parce qu'ils n'ont pas payé les droits et taxes dus à l'État. Ce n'est pas une question politique.
Et donc, en un mot, aujourd'hui, pour vous, l'accord de la Saint-Sylvestre a encore toute sa raison d'être.
Absolument, l'accord a toute sa raison d'être et l'accord est d'application. Mais je crois que nous devons nous dire que l'essentiel a été fait. On a permis au pays d'évoluer dans une situation sereine. Et bientôt, nous allons aller aux élections. Les conciliabules, les accords vont tomber. Il faut que les pouvoirs élus par le peuple, de la base au sommet, puissent exercer son pouvoir comme dans un état de droit.
Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit l'honorable François Zécouillet, député national et porte-parole du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Une autre actualité, c'est cette rencontre jeudi 4 octobre à Kinshasa entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les candidats à l'élection présidentielle de décembre 2018. Une rencontre qui a notamment tourné autour de la problématique de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral, le financement des élections et l'affichage des enrôlés sans empreinte digitale. Pour la plupart des opposants et de certains indépendants candidats à la présidentielle, ils n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante de la part de la CENI concernant notamment ces éléments. Quelle est votre réaction?
D'abord, ils doivent dire encore une fois la vérité au peuple.
C'est quoi la vérité?
La vérité, c'est que c'était une réunion de prise de contact qui devrait déboucher à des réunions plus techniques pour pouvoir expliquer aux candidats et à l'opinion de quelle manière la CENI fonctionne. Ça, c'est de un. De deux, j'ai lu leur déclaration où ils évoquent, pour commencer, le fait que la machine à voter est une machine qui n'est pas prévue par la loi. C'est très grave ça. La loi portant organisation des élections dit à son article 47 et 55 que le vote peut être manuel ou électronique. Et il se base sur un article 237-R de la loi qui dit que la machine à voter ne peut pas être d'application pour les élections en cours. Au moment du vote de la loi, les élections en cours, c'était les élections convoquées en 2015. Et non pas les nouveaux scrutins qui va avoir lieu le 23 décembre.
Mais ils ne partagent pas aussi cette interprétation que vous faites.
Pourtant, c'est la vérité. C'est ça le contexte. Je suis législateur. J'ai participé au vote de la loi. Vous pouvez, s'ils en doutent, demander une intervention à la Cour constitutionnelle. Mais c'est cela la vérité. Parce que sinon, il y aurait des articles contradictoires dans la loi. Or, la loi ne peut pas se contredire. Et cette loi a été déclarée constitutionnellement conforme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction dans la loi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand ils affirment que les électeurs n'ayant pas des empreintes sont des électeurs frauduleux au terme de l'article 18 de la décision du 18 février portant mesures d'application de la loi électorale. Là encore, ils ont tout faux. Parce que quand vous lisez l'article 22 de la décision portant les mesures d'application d'enrôlement des personnes, l'on dit à l'article 22 de cette disposition que les personnes qui ne disposent pas des empreintes ou dont les empreintes sont illisibles peuvent être enrôlées sur décision du président du bureau de vote et cela doit être acté. Et donc ces personnes-là sont des personnes réelles.
Et pas fictives.
Et pas fictives. Et pour preuve, je sais que la CENI va afficher les listes des électeurs. Il reviendra aux personnes qui suspectent tel ou tel de ne pas être un vrai électeur de les dénoncer. Vous imaginez quand même qu'à travers tous les pays ici, il y a des personnes sans empreinte dans tous les aires géographiques. Les aires géographiques favorables à la majorité, comme les aires géographiques favorables à l'opposition. Et je vous surprendrai même de vous dire qu'il y a même des candidats députés déclarés candidats définitifs qui n'ont pas d'empreinte. Vous imaginez? Et donc, c'est des faux fuyants que nos amis de l'opposition veulent alléguer pour qu'on ne puisse pas aller aux élections en même temps, parce que vous avez lu leurs conclusions. Jeter l'opprobre sur la CENI pour dire voilà, la CENI n'est pas organisée des élections. Pourtant, ce sont eux qui ne veulent pas qu'on organise des élections parce qu'il est clair que sans cette machine à voter, on ne peut pas organiser des élections le 23 décembre. Donc, c'est des personnes qui veulent une chose et son contraire. Enfin, je voulais chuter par là par rapport à votre question. Élection consensuelle, cher ami, les dispositions encore de l'article 22 de la loi portant organisation de la CENI, je devrais voir l'intitulé exactement, dit que dans son fonctionnement, les membres de la CENI ne sollicitent ni ne recourent à des instructions de personne. Ils jouissent de la liberté et jouissent de l'indépendance totale vis-à-vis des partis qui les ont mandatés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons donné l'indépendance à la CENI pour organiser pour nous les élections et il ne nous revient pas, nous politiques, de commencer de manière intempestive à interférer dans son action. Mais en dépit de cela, la CENI a toujours été ouverte pour nous recevoir et nous expliquer. Et du reste, aucun parti politique aujourd'hui qui a été en consultation avec la CENI et la CENI l'a demandé expressement qu'il puisse nous donner des preuves ou donner à la CENI les preuves que la machine comporte des risques de fraude. Aucun parti politique aujourd'hui n'est jamais arrivé à le démontrer. Aucun électeur n'est jamais arrivé à démontrer qu'il y a eu erreur, la machine s'est trompée. À aucun moment. Alors, et donc, c'est des discours politiciennes, des personnes qui ne sont pas prêtes à aller aux élections et qui cherchent des arguments pour justifier d'une part l'ère de fait si la machine à voter est utilisée et d'autre part le vide juridique qui arriverait si jamais les élections ne sont pas organisées. Dans tous les cas, ce serait tout bénéfice pour eux.
Honorable Nzekouye, les opposants, eux, ils disent allons aux élections sans machine à voter. Vous soutenez tout le contraire et il y a une frange de la population qui pense qu'il faudrait qu'il y ait un consensus autour de cette question. Est-ce opportun?
Non seulement ce n'est pas opportun, mais c'est illégal. Or, on vote des lois pour les appliquer. Soit on va changer de loi, c'est possible, mais je me demande si nous devons faire une modification de la loi en vigueur aujourd'hui. Parce que, comme je venais de vous le dire, les dispositions de la loi portant organisation des élections prévoient que les élections peuvent se faire avec la machine ou sans machine. Or, la CENI a, dans le cadre de rationaliser les élections et de diminuer le coût des élections, a fait ce choix. Ce choix qui n'a pas été contredit par quiconque dans le sens de démontrer que le choix que la CENI a opéré est mauvais ou peut être entaché d'irrégularité. Et donc, pour quelles raisons devons-nous nous asseoir encore alors que la loi a prévu ce qu'il faut et les représentants du peuple, élus par le peuple congolais, ont donné ce pouvoir par la loi à la CENI d'organiser les élections et lui ont donné la liberté de choisir une option ou une autre. La CENI a choisi l'option qui nous a présentée, qui a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Nous pourrons peut-être y revenir si vous le voulez, comparer à la situation des bulletins manuels comme on les a expérimentés en 2011 et en 2006.
Alors, puisqu'on parle des relations entre les partis politiques et la CENI, qu'est-ce que vous répondez à une frange des Congolais qui dénonce une relation incestueuse qui existerait selon eux entre la majorité présidentielle et la CENI?
Je crois encore une fois, c'est des mensonges. Simplement, nous, la majorité, nous avons démontré à chaque moment que nous sommes prêts à aller aux élections. Déjà en 2013, quand l'opposition a dit « il faut que nous puissions faire une révision partielle du fichier électoral », nous avons dit oui. Nous étions prêts déjà à nous préparer aux élections en 2016, à ce moment-là. L'opposition elle-même et une partie de la communauté internationale et l'OIF ont dit non, si nous faisons une élection, un enrôlement partiel, il pourrait y avoir encore de problèmes. Nous avons accepté. Donc, aujourd'hui, nous devons nous dire que le fait que la majorité a tendance à accepter toutes les propositions de la CENI ou de l'opposition nous donne l'impression que nous sommes des connivences. Pourtant, nous disons simplement que dès le moment où nous avons été élus, nous nous préparons aux prochaines séances électorales. Et nous estimons que, à tout moment, nous sommes prêts à aller aux élections et les gagner. Peu importe les circonstances. Et il ne nous est pas revenu à nous, majorité, de décider les choix que la CENI doit opérer. Nous lui avons laissé la liberté de choix. Soit d'organiser avec le vote manuel ou électronique. Et nous nous sommes rendus compte que les choix que la CENI a fait de faire un vote semi-électronique nous coûterait moins cher et serait plus rationnel en termes de lutte contre la fraude.
Et permettrait certains tripatouillages selon
non,
certains
tous les contraires. Laisse-moi parler de tripatouillage. Allez, Hong, moi j'ai été élu en 2011. J'ai vécu des situations catastrophiques où il est arrivé que des stocks importants de bulletins de vote étaient restés entre les mains dans le justicien. Chez moi à Rutshuru. Et j'ai des preuves que certains candidats, après les votes, ont récupéré ces bulletins et ont commencé à les remplir en remplacement d'autres bulletins de vote. Cela ne sera pas possible aujourd'hui parce que dans chaque bureau de vote, il n'y aura que 660 bulletins de vote dans une mallette sécurisée. Et donc, là où on pouvait avoir 1000, 2000 bulletins de vote à portée de main, déjà, ça ne sera pas possible. De deux, cette machine a été conçue de telle manière que, à la fin ou l'heure de la fin de vote, que la machine ne soit plus opérationnelle. On ne peut plus les toucher pour continuer à faire les votes. C'est qu'on peut faire avec les papiers. D'autre part, la question des personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Une personne à Kinshasa qui devait avoir un livre de 30 pages pour chercher un nom. Et aujourd'hui, on lui dit, vous cliquez sur un nom ou un visage, si vous êtes trompé, vous pouvez revenir. Ce qui n'était pas le cas avec les votes sur papier. Dès que vous avez coché, c'est fini. Aujourd'hui, vous pouvez appuyer votre doigt sur l'écran. Vous dites, non, ce n'est pas à l'Aéron que je vais voter. Je vais voter Mamie Ngumba ou une autre personne de Radio Okapi. Je change. Et donc, à la fin, on se rend compte que les mécanismes mis en place par le CENI sont beaucoup plus sécurisants pour les électeurs, sont plus faciles à manier, même par les personnes qui ne savent pas lire. On dit, voilà les écrans Android, presque tout le monde a les écrans
donc,
Android dans le pays.
Si on comprend François Zécouyer, c'est plus facile que chaque parti ait des témoins, des observateurs dans tous les bureaux de vote.
Absolument, parce que c'est cela ce que la loi a toujours prévu. Mais vous vous rendrez compte que l'opposition a toujours brillé par son absence. L'opposition n'a pas suffisamment de gens, même quand ils se disent le peuple, mais le peuple, ce sont ces gens-là qui doivent être leurs témoins dans les bureaux de vote. Le peuple, ce sont les militants aujourd'hui qui doivent sensibiliser. Aujourd'hui, nous, on peut perdre. On a demandé à la CENI de venir nous démontrer la machine à voter dans les différents endroits où nous avons nos bureaux, on peut perdre. Parce que nous voulons comprendre, nous voulons familiariser nos électeurs avec cette machine. Que font les partis de l'opposition?
Grande interview reçoit l'honorable François Nzekouye, député national et porte-parole du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Ne fallait-il pas la certifier carrément, cette machine, comme avait demandé la CENCO en son temps?
Que signifie certifier, cher Alain Hurong? Vous avez vu l'ONG britannique qui est venue ici. Elle a regardé la machine pendant 2 mois. Elle nous a dit qu'elle ne comporte pas de risques graves. Elle a donné quelques recommandations que la CENI dit avoir déjà prises en compte avant même que l'ONG britannique n'ait formulé ses recommandations. Et ce qui reste, la CENI a promis de les prendre en compte. Que voulez-vous d'autre?
Alors, honorable Nzekouye, l'émission est en train de tendre lentement mais sûrement vers sa fin. Nous allons parler de l'aspect sécurisation des élections. Il y a des foyers de tension qui se multiplient à travers le pays, notamment dans l'est de la RDC, avec Beni où il y a eu des nouveaux massacres le week-end dernier, dans le Rutshuru, Masisi, dans la province du Tanganyika et dans l'ex-province orientale. Comment la RDC va-t-elle aller aux élections dans ces conditions?
D'abord, j'ai compati avec mes frères partout en République du Congo qui sont victimes de cette barbarie, et très particulièrement à Beni où les ADF continuent à égorger la population, mais aussi à Rutshuru où il ne se passe pas un jour sans qu'on tue quelqu'un ou kidnappe une personne, et à Ituri où semble naître une nouvelle rébellion. Nous sommes compatissants vis-à-vis de nos compatriotes qui subissent ces affres des guerres qui sont plus liées aux intérêts économiques qu'à autre chose. Mais nous devons dire que l'armée est en train de se déployer ou se déploie déjà pour mettre fin à ces situations d'insécurité. Mais nous devons également nous rappeler qu'en 2006, la situation n'était pas meilleure. En 2011 non plus, nous avions des groupes armés.
Et donc on doit faire avec.
Non, je ne veux pas dire qu'il faut faire avec, mais nous devons relativiser les choses. Nous devons considérer que nous avons organisé 2 cycles électoraux et il y avait des endroits où il y avait l'insécurité. Ça ne devrait pas être un prétexte, mais nous appelons notre armée à faire de son mieux pour mettre fin à cela. Du reste, nous au Parlement, nous avions eu une réunion avec les hautes autorités du pays, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, celui de la Défense, des Finances et des Budgets, pour que nous examinions ensemble de quelle manière nous devons régler ces problèmes le plus rapidement possible. Et je vous informe qu'il y a une mission parlementaire, ou des missions parlementaires, il y a une qui se rend à l'Ituri et une autre au Nord Kivu, pour pouvoir palper la situation de droit et revenir avec des recommandations au gouvernement.
Qui ne sont jamais appliquées. Ce ne sont pas les premières missions.
Je ne pense pas qu'ils ne sont jamais appliqués. Parce que si vous regardez ne fût-ce que la situation de Beni, il y a eu quand même des moments d'accalmie, il faut le dire. Et Alain, quand vous allez au cimetière militaire de Beni, vous pouvez vous rendre compte des nombres de nos militaires qui perdent la vie. On ne peut pas être chef d'une armée et envoyer ces militaires comme chair à canon. Ce n'est pas possible. Donc, s'il y a des militaires qui meurent, c'est qu'il y a des combats. Et s'il y a des combats, ça veut dire qu'on fournit des efforts pour mettre fin à une situation quelconque. Mais une guerre, on ne la fait pas seule. On est en face de soi, de personnes tout aussi déterminées que notre armée. Et donc, on sait toujours, je l'ai dit, quand une guerre commence, mais on ne sait pas quand elle se termine, malheureusement.
Alors, honorable Nzekouye, quels sont pour vous, pour revenir au processus électoral, d'ailleurs, nous sommes toujours en train d'en parler, quels sont pour vous les préalables pour un processus électoral inclusif, crédible et apaisé?
Pour moi, d'abord, il faut que les principes devant organiser les élections soient définis par la loi. Et la loi est là. De deux, il faut que la CENI soit ouverte pour expliquer aux uns aux autres les choix qu'il a opérés, de manière à ce que tout le monde soit informé, de manière à y participer de façon utile. Et la CENI l'est fait. Et donc, ce qui reste, c'est quoi? C'est sans doute recommander au gouvernement de continuer à accélérer le financement. Du reste, il faut aussi préciser là-dessus que les montants qui restent à financer aujourd'hui doivent couvrir les paiements des agents électoraux. Il y aura 600 000 agents électoraux qui vont travailler. Et si chacun doit avoir à peu près $400, ça fait près de $180 millions qui restent. Il y a les carburants à acheter, il y a les paiements des policiers qui vont travailler les jours des élections. Donc, ces dépenses qui vont être faites au moment des élections, il n'y a pas de raison d'avoir peur aujourd'hui. Le gouvernement a passé les commandes pour tout ce qui devrait l'être. Parfois, des commandes qui seront payées plus tard, mais l'essentiel, c'est que les élections puissent avoir lieu. Et donc, aujourd'hui, je crois que nous sommes à mesure d'avoir des élections qui soient inclusives, crédibles et transparentes. Mais elles ne peuvent l'être dans la tête de nous tous que quand on s'y implique et quand on a envie vraiment d'aller aux élections. Parce que si on n'a pas envie des élections, on ne manquera pas de prétexte pour dire que ceci ou cela manque.
Et qu'en est-il du caractère apaisé?
Oui, le caractère apaisé est encore une question d'état d'esprit.
Puisqu'on sent de la tension dans l'air, à travers la classe politique
la
et à
tension,
travers la population.
Je l'ai dit, cher Alain Hirong, la tension est entretenue délibérément et de manière mensongère. Parce que je viens de vous démontrer ici déjà que des grandes personnalités, des éminents politiciens, des représentants d'un grand parti politique et autres, qui signent un papier dans lequel il y a des mensonges, excuse-moi le terme, des mensonges sur les dispositions de la loi. C'est quand même une mauvaise foi, parce que je ne peux pas penser que ces personnes-là soient ignorantes. C'est des éminents intellectuels, que je respecte du reste. Mais, par la mauvaise foi, ils allèguent des faits qui sont capables d'être contredits à tout moment sur base des textes de loi. Dire que la machine à voter est un instrument non prévu par la loi. Vous l'avez entendu plusieurs fois. Lisez l'article 47, lisez l'article 55 de la loi.
Portrait.
Françoise Écouyer, avant de terminer cette émission, suivons votre portrait que nous présente brièvement Mimi Ngumba Mulongo.
Honorable Françoise Écouyer, économiste, expert en environnement et mines, rapporteur de la Commission Environnement, Ressources naturelles et Tourisme de l'Assemblée nationale, point focal à l'Assemblée nationale de l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE, coordonnateur régional adjoint du Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, RIPAR, porte-parole du PPRD.
Merci Mimi Ngumba Mulongo. Un mot, honorable Françoise Écouyer, à tous ces millions de Congolais qui vous suivent en ce moment, à travers le pays et à travers le monde, en guise de conclusion.
En guise de conclusion, je dois dire que l'ARDC s'est engagée résolument pour organiser les élections le 23 décembre. Le gouvernement de la République a mis beaucoup de moyens et a voulu, question de souveraineté, être seul à financer ces élections. Parce que partout ailleurs, c'est de cette manière-là que ça se passe. Ça entraîne des sacrifices sur d'autres dépenses de l'État, mais ça vaut la peine. En même temps, nous devons dire que la CENI, notre centrale électorale indépendante, fait du bon travail et fournit des efforts pour nous rassurer, nous tous. Nous espérons et nous le souhaitons qu'il continuera ou elle continuera la CENI à nous rassurer tous jusqu'au bout et pour organiser les élections qui puisse être accepté par tous. Mais nous appelons aussi à la classe politique congolaise d'être sincère vis-à-vis de la population, de lui dire la vérité. Si ils ont peur de perdre les élections, dites-le à la population pour dire nous ne sommes pas prêts parce que nous ne sommes pas préparés. Mais ne mentons pas au peuple en disant que ceci n'est pas prévu par la loi ou ces dispositions concernent telle matière, au moins ça concerne autre chose. Ce n'est pas respectable pour les politiciens que nous sommes.
Honorable Françoise Écouyer, merci d'être venu à Grande Interview.
C'est un grand plaisir d'y être et j'espère pouvoir y revenir chaque fois que vous le demanderez.
Merci. Grande Interview, c'est fini pour aujourd'hui. Patrick Kiasongwa était à la technique, Michel Kifinda à la coordination, Tina Salama à la supervision, à la présentation, Alain Rung-Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.